Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'occasion de son passage à Paris, où les 22 et 23 septembre dernier, il est venu cuisiner dans son bistrot parisien Grand Cœur pour quelques heureux convives, nous avons rencontré le meilleur chef du monde, en toute simplicité. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Les Bonnes Choses aujourd'hui sont sorties pour un petit moment à part entre Menton et Paris en compagnie du chef Mauro Colagreco. Alors si le nom ne vous dit rien encore, sachez qu'il a été couronné en 2019 de 3 étoiles au guide Michelin et que la même année, il a été élu meilleure table du monde par un classement britannique composé de 1000 experts mondiaux. À défaut de pouvoir aller à la rencontre des essences végétales, terrestre et marine qui compose son univers, son voyage sensoriel rythmé par les déclinaisons du calendrier lunaire n'est hélas pas à la portée de toutes les bourses, nous avons voulu en savoir plus sur ce que fait ce cuisinier hors pair et sur ce qui le fait.
Moule et courge épicées de fleurs de coriandre et safran en nappe envoûtante, concombre de mer grillée, purée d'ail, betterave mi-cuite à la crème de caviar, palourde au bouillon de réglisse, raie au pois chiche et tripette de cabillaud, calamar dans son bouillon, oignon brûlé et pata negra, bonbons de patates douces et violettes, lamelles de poutargue, capre et huile de café, senteur citron confit.
Bonjour Mauro Colagreco.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes le chef du restaurant Le Mirazur à Menton, mais c'est dans votre fief parisien, le bistrot Grand Cœur, qui est situé rue du Temple, dans le Marais, que vous nous recevez aujourd'hui. C'est un très joli endroit, ce restaurant Grand Cœur, qui est dans une cour pavée du XVIIe siècle, avec une école de danse. On entend souvent le piano de l'école de danse.
Oui, j'adore venir à ce restaurant, parce que c'est un endroit très romantique, finalement, très typé. Et on se sent, on est à Paris, mais on est à l'abri. C'est vraiment un chouette endroit.
Vous vous êtes installé en plus dans la cour, justement, là, une grande terrasse qui progressivement prend toute
la
cour.
Oui, prend de la valeur en prenant un peu de place, mais elle est tellement belle qu'on fait profiter nos clients.
Alors là, on est dans un endroit qui est très urbain, malgré tout, dans le Marais, même si on est un peu à l'abri du monde, en effet, ici. Est-ce que vous diriez qu'à Menton, au Mirazur, vous êtes aussi un peu en retrait, protégé sur votre colline qui domine la baie, qui domine la mer?
C'est vrai qu'à Menton, on a encore un autre endroit magnifique parce qu'on est à l'écart de la ville avec cette vue imprenable sur la baie de Menton. Et à nos épaules, aux épaules du restaurant, ces rochers magnifiques qui nous gardent au chaud, ils nous protègent.
C'est un endroit sur lequel vous êtes tombé presque par hasard. En tous les cas, vous ne connaissiez pas Menton, Mauro Colagreco. Est-ce que vous vous y plaisez?
Oui, je me plais beaucoup. Maintenant, c'est un lieu où j'ai fait mes racines et c'est un endroit que j'aime bien y vivre. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais 28 ans. Je venais de ma vie parisienne, donc ça m'a changé un peu le rythme de vie. Mais aujourd'hui, après 14 ans, je suis bien enraciné à Menton et je me plais beaucoup.
Qu'est-ce qu'on trouve là-bas, sur la Côte d'Azur, qu'on ne trouve pas ailleurs, en particulier qu'on ne trouve pas à Paris, puisque vous étiez parisien depuis 2001?
Oui, c'est vrai. Mais une des choses qui m'est manquée, c'est le soleil. Et on a cette luminosité magnifique qu'on trouve à la Côte d'Azur et dans le sud de la France en général. Mais particulièrement Menton, c'est incroyable les microclimats que nous avons. Et après, il y a ces les produits, être proche de la mer, entre la France, l'Italie.
Vous êtes vraiment à quelques mètres de la frontière italienne.
On est à 50 mètres de la frontière italienne. Et ça, pour un chef, c'est quelque chose d'extraordinaire, non? D'avoir ces deux grandes cultures culinaires à portée des mains, pouvoir jouer dans nos assiettes. Donc ça, ce sont deux choses qui me tiennent vraiment à cœur.
Et puis, c'est le paradis des agrumes. On parle du citron de Menton IGP.
Bien sûr, il faut pas les oublier, les IGP des Mentons, ces citrons magnifiques et presque sucrés. Quand on les laisse mourir dans l'arbre, il devient sucré pratiquement, on peut les croquer comme une pomme. Qui est magnifique, et pas seulement les citrons, on a accès à un jardin collection d'agrumes dans lesquels on a plus de 150 variétés d'agrumes à exploiter.
Et vous travaillez avec des producteurs d'huile d'olive au citron de Menton aussi?
Oui, ça c'est un projet qu'on a depuis pratiquement 10 ans avec Karim, le propriétaire de l'huilerie Saint-Michel à Menton. C'est une petite huilerie du village et dans laquelle il m'a proposé de faire ces huiles d'olive aromatisées au citron de Menton qui sont extraordinaires.
Mauro Colagreco, parlons un peu de votre formation, puisque vous venez de l'Argentine, vous êtes italo-argentin d'origine, vous êtes arrivé en France en 2001 et vous avez fait vos gammes à l'école hôtelière de La Rochelle. Alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école hôtelière de La Rochelle ?
Ben, on apprend plein de choses et surtout quand on arrive depuis l'Argentine, on est vraiment dans l'admiration des produits, de ces marchés extraordinaires de La Rochelle, ces souvenirs magnifiques. Et ces lycées hôteliers qui étaient assez stricts et qui formaient vraiment de A à Z tous ces élèves. Et avec rigueur et qui m'a beaucoup servi pour, par la suite pour pouvoir affronter ces belles et grandes maisons que j'ai eu la chance d'y travailler.
Mais on apprend de la technique, on apprend un savoir-faire, on apprend une créativité, on apprend quoi concrètement ?
Mais on apprend de la technique, de l'histoire, très important aussi, de la culture générale, de l'œnologie, du service. J'ai fait une mise à niveau pour un BTS, donc la formation c'était quelque chose de très global, mais assez précis, assez pointilleux. Et oui, c'était une formation très générale.
Et après, vous êtes passé, c'est comme ça qu'on le dit en tout cas, par les cuisines de grands chefs, Bernard Loiseau, Guy Martin, Alain Ducasse et votre mentor Alain Passard. Alors oui. Qu'est-ce qu'on retient de ces chefs-là ? Prenons-en un, Alain Passard, pourquoi vous a-t-il autant marqué ?
Alors Alain, c'est un chef extraordinaire, c'est un magicien que j'admire beaucoup. J'adore son approche de la cuisine et j'arrivais à l'Arpège. Quelque temps après, il avait fait ses grands changements d'être le plus grand rôtisseur parisien, à éliminer ses viandes et travailler
pour
pratiquement
faire de la cuisine végétale.
Végétale avec un peu de poisson, un peu de volaille, mais très marqué végétal. Et c'était une espèce de révolution à ce moment-là. On parlait de partout de lui. Et rentrer dans cette cuisine, ça a été une vraie expérience, un changement de code totalement. Je venais de chez Loiseau. On avait une cuisine, une excellente cuisine avec mais quelque chose de plus classique. Et rentrer à l'Arpège, une petite maison, c'était une petite brigade, c'était une vraie expérience. Et l'avoir tous les jours, le grand maître devant nous pour nous marquer les erreurs ou nous aider à progresser, c'était une grande chance.
Donc, Mauro Colagreco, vous diriez que Alain Passard, il vous a marqué autant par sa cuisine, le contenu de l'assiette, que par son management, le rapport qu'il avait avec ses équipes, parce que je crois que pour vous, le travail en équipe est extrêmement important. Vous aussi, vous saluez toujours votre brigade. Ils sont jeunes, ils sont cosmopolites, ils ont tous moins de 35 ans, ils sont issus d'une quinzaine de pays et ils sont habitués à vous, le chef, c'est-à-dire la façon dont vous donnez le « là ». On va en parler tout à l'heure, la façon dont vous changez constamment de votre cuisine. Il faut bien que la brigade s'y habitue. Donc, c'est ces deux aspects-là que vous retenez d'Alain Passard, vous diriez ça ?
Oui, j'étais impressionné par son style, sa cuisine, sa pâte. Et aussi la personne m'a vraiment marqué. On a gardé d'excellents rapports et c'est quelqu'un qui a formé plein de grands chefs aujourd'hui.
Quand vous avez reçu en 2019 le trophée du meilleur chef de l'année par des pairs, hein, c'est un jury de 6000 professionnels de la restauration qui figurent dans le guide Michelin, vous avez parlé de l'école de l'esprit et du partage que représente la cuisine et justement de l'importance du travail en équipe. Et malgré tout, On entend, peut-être même de plus en plus, parler des violences en cuisine, parler de la pression, parler de la compétition. Donc violence en cuisine, pression, compétition, comment vous abordez ce travail en équipe pour éviter ces violences ?
C'est vrai que c'est une contradiction parce que c'est un travail d'équipe, c'est essentiel, c'est une brigade, ça devient presque un ballet, donc c'est une coordination, et tout le monde doit s'entendre, se connaître, et en même temps on travaille avec beaucoup de pression, car quand on travaille dans un restaurant comme le Mirassur, on essaye de toucher l'excellence. Donc on est dans une certaine pression, mais une pression peut être très négative comme elle peut être quelque chose de très positif aussi. Et avec le temps, je crois que le secret, c'est de convertir ces pressions en quelque chose de positif et faire fédérer les équipes à une cause, à un but commun. Il n'y a pas besoin de violence pour ça. C'est vrai que dans les vieilles écoles, les cuisines, c'était des lieux rudes et très difficiles. Aujourd'hui, la tendance, c'est justement d'aller contre ça, de faire du vrai management et d'être proche de ces équipes, être exigeant, hein, mais toujours avec un rapport humain et cordial. Non, nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années dans ce sens. Une des choses qu'on a fait, c'est fermer un service de la semaine en plus, pour justement faire de la formation, faire du coaching, sortir nos équipes de sa routine quotidienne et aller voir des autres choses. On fait venir des intervenants pour faire de la formation, ça, soit quelque chose de très concret en relation avec la restauration, ou aussi des choses qu'on va totalement sortir du cadre. Ça peut être une économiste, ça peut être quelqu'un, bon, nous, on a des grands jardins dans lesquels on travaille en permaculture et en biodynamique. Et ça peut être un intervenant qui vient les expliquer de quoi il s'agit, la permaculture. Parce que tout le monde parle de permaculture, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et tout ça, ça fait partie du management pour gérer quand même 68 personnes qui travaillent aujourd'hui au restaurant pour servir juste 40-45 couverts.
Tous vos restaurants, vous gérez 14 établissements sur 3 continents, hein, en Asie, en Europe et en Amérique. Tous vos restaurants ont rouvert aujourd'hui, Mauro Colagreco ?
Alors, ça ouvre doucement. La reprise, elle est pas facile partout. Nous, on a eu la chance en Côte d'Azur d'avoir une reprise très forte, parce que au mois de juin, on était en pleine saison et les gens, ils avaient vraiment envie de profiter, d'aller sortir au restaurant. Donc, on a fait une très belle reprise. Ça continue au mois de septembre et octobre. On a une visibilité assez positive, encourageante. Et après, dans les autres pays, bon, l'Asie, c'est très calme. L'Amérique latine et les États-Unis, c'est encore difficile. Et on fait avec. On est devant une grande crise mondiale et il faut apprendre à vivre avec.
En juin, vous avez déclaré « Nous n'avons pas changé le style de cuisine, mais l'âme du Mirassur ». Alors, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que le Covid a changé pour vous, Mauro Colagreco, pour votre façon d'aborder la table, au sens large du terme?
Oui, oui. Je pense qu'on a tous passé pour une grande réflexion de nos vies, de la société qu'on veut construire, qu'on veut laisser à nos enfants. Personnellement, j'ai été mené à me poser plein de questions et j'espère pas être le seul. Et je voyais pas rouvrir le Mirassur tel quel je l'avais fermé le 14 mars. Pour moi, la position de meilleur restaurant au monde, de chef de l'année, je pouvais pas me permettre de juste ouvrir et rien dire. Et donc, c'était un moment très difficile parce que je trouvais pas l'énergie pour rouvrir. Ben, j'ai trouvé l'énergie en cuisinant pour l'hôpital de Menton avec une partie de mon équipe. J'ai retrouvé l'énergie dans mes jardins en faisant les devoirs avec mes enfants. Mais rouvrir le restaurant, c'était une tâche qui me paraissait très compliquée. Et malgré ça, ben, on l'a fait. Mais on l'a fait avec un vrai changement, un très beau message, je pense. Et c'était le fait d'amener vraiment le travail qu'on fait dans notre jardin, qui est un travail extraordinaire en relation avec la terre, avec la nature, un respect total du sol, qui est un des grands problèmes actuels de l'agriculture actuelle. Et l'amener d'une façon très poétique à nos assiettes, à nos clients, en proposant une vraie expérience. Il s'agit de quatre menus qui vont suivre le rythme du calendrier lunaire.
Ben on va s'arrêter sur ce grand mystère du calendrier lunaire qui se retrouve dans l'assiette. On va écouter la Madeleine et on vous retrouve tout de suite après Mauro Colagreco. Les bonnes choses sont sorties avec Mauro Colagreco, mais il y a bien évidemment une Madeleine dans cette émission avec vous, Matteo Caranta.
Oui, bonjour Caroline. Et pour cette Madeleine, eh bien, j'ai rencontré un monument de la radio, une journaliste, productrice, éditrice, ancienne directrice de France Culture qui officie maintenant sur France Inter. Vous l'avez peut-être connue, c'est Laure Adler. Et Laure Adler, eh bien, elle publie La Voyageuse de nuit, qui est un voyage dans la vieillesse qu'elle assume, dont elle découvre les contours et qu'elle redéfinit. Eh bien, pour la Madeleine, elle a fait machine arrière puisqu'elle est remontée à son enfance et elle me parlait de l'Auvergne, de ses grands-parents. Une Madeleine avec un nom vernaculaire très particulier.
Ma Madeleine, ce sont des crêpes en Auvergne qu'on appelle les pompes. C'est une sorte de crêpe extrêmement épaisse qui ressemble à une sorte de galette et qui est faite avec un type de farine très particulière qui est de la farine de châtaigne. Et c'est ma grand-mère qui était institutrice dans une toute petite ville d'Auvergne qui s'appelle Mauriac, chez qui je passais toutes mes vacances, qui me faisait les crêpes dès que j'arrivais d'Afrique. Et elle savait que c'était une sorte de bienvenue à la fois olfactive, odorante, et j'avais le droit à la fois de préparer la pâte à crêpes. C'était très compliqué, c'était très long, c'était très lent. Pour que la pâte soit assez épaisse, ensuite elle faisait chauffer la poêle, ensuite elle mettait un tout petit peu de beurre, mais pas trop pour pas qu'il devienne roux et pour pas que ça brûle. Et ensuite, fallait laisser pendant 2-3 minutes de chaque côté la crêpe bien cuire pour ensuite la retourner. Alors là, j'ose pas vous raconter comment à l'âge de 7-8 ans, pour la première fois, j'ai eu la possibilité de tenir la poêle à crêpe pour pouvoir essayer de la retourner. Et mon grand-père, qui était un paysan, au moment où ma grand-mère faisait la pâte à crêpes, c'était vers 5-6 heures du soir, allait chercher dans la cave de sa petite maison du jambon d'Auvergne qu'il avait fait saler lui-même. Il me découpait des fines tranches de lard que je mettais sur la pompe. Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je n'ai jamais retrouvé ce goût à la fois salé et sucré, doux et en même temps un peu épicé de cette alliance entre la farine de châtaigne, le gras du jambon et puis une espèce d'odeur qui s'emparait de toute la cuisine et qui était délicieuse et qui faisait que, comme les repas se prenaient à partir de 7 heures du soir et qu'il fallait faire chabrot, c'est-à-dire mettre du vin rouge à l'intérieur de la soupe avec du pain, je me faisais engueuler par mon grand-père parce que j'avais plus vraiment faim.
Mauro Colagreco, je n'ai pas oublié que nous devons parler du calendrier lunaire dans l'assiette et de vos quatre menus, mais on vient d'entendre cette Madeleine. Si je vous demande si vous avez, vous, une Madeleine, ce serait laquelle ?
Alors, ça vient tout de suite, les raviolis de ma grand-mère, Amalia, qui c'était une grande cuisinière à la maison, mais qui faisait ses raviolis avec une sauce tomate extraordinaire et qui m'ont resté, ils vont rester à vie.
Et ça, ça pourrait être inscrit dans les quatre menus racines, feuilles, fleurs, fruits, pas tellement, hein. On ne pourrait pas avoir les raviolis de notre grand-mère là-dedans.
Mais par respect et par illusion, j'ai peur en fait, chaque fois que je veux manger un ravioli, d'avoir ces souvenirs et de trahir ces souvenirs. Donc par respect, je ne les fais pas.
Alors parlez-nous de cette haute cuisine biodynamique avec vos quatre variations rythmées par les déclinaisons du calendrier lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors la lune, il a une vraie influence sur les légumes, et il y a une influence sur les marées, sur l'eau, sur les personnes. On dit qu'on est lunatique, hein. Bon, les légumes, selon la phase lunaire et la position de certains astres selon la lune, l'énergie des plantes, il va se concentrer soit plus dans les racines, soit sur les feuilles, les fleurs ou les fruits. Et donc théoriquement, c'est le meilleur moment pour manger des racines, des feuilles, des fleurs ou des fruits, selon la lune, parce que c'est là où il y a toute l'énergie de la plante. Et ces phases lunaires, ils durent entre une journée ou maximum 4 jours. Donc le vrai challenge pour nous, c'est de changer totalement le menu d'un jour à l'autre. Pendant, il y a des semaines dans lesquelles on a les 4 menus. Mardi, on va voir racines, mercredi, on va voir feuilles, vendredi, samedi, fleurs, et on va finir avec les fruits le dimanche. Donc, c'est un vrai challenge. On pense que c'est le seul restaurant au monde qui a aujourd'hui la capacité de pouvoir changer à ce niveau-là le menu complètement, la décoration, les uniformes. On a vraiment fait une réflexion globale de l'expérience client. Et donc, c'est une très belle expérience. Le menu, il va être guidé, les jours feuilles, il va être guidé par les feuilles, par l'eau aussi, parce que la lune, elle est en haut. Quand l'énergie, elle est dans la feuille, c'est un jour haut. Après, il y a terre, feu et air. Et donc c'est une source d'inspiration incroyable, et c'est aussi un message qu'on essaye de donner à nos clients, c'est de se poser et de regarder des autres choses qui des fois ils sont pas perceptibles à nos yeux, mais qui dans le passé on avait la capacité, la sensibilité de les apercevoir. Parce que quand on va un peu, on cherche dans l'histoire de l'homme et de l'agriculture, ben tous les anciens regardaient ces choses-là, et ils se guidaient par les influences des astres aussi. Et nous, avec notre société, la société qu'on a construite, avec la vitesse dans laquelle on vit, ben on a laissé regarder plein de choses qui sont très importantes, qui nous semblent en tout cas très importantes à nous, et qu'on estime qu'on devrait remettre au jour.
Est-ce qu'il y a des plats nouveaux qui sont nés déjà? Je crois qu'il y a le « Dark Side of the Moon ». Par exemple, oui. C'est quoi le Dark Side of the Moon?
Alors, il y a plein de plats qui sont changés. C'était un vrai challenge, ça aussi, parce que après une année aussi fructueuse pour nous, parce que 2019, c'était l'année des 3 étoiles, du meilleur restaurant au monde.
Une année
très chargée, et qu'on aurait pu continuer avec tous nos plats qui nous ont fait arriver à ça. Et malgré ça, ben, on a tout enlevé. Et on est reparti de zéro. Donc, tous les plats sont des nouvelles créations. Hein. Le confinement nous a donné beaucoup d'inspiration. Et un des plats, c'est le Dark Side of the Moon, donc le côté obscur de la Lune, qui, on l'a créé. C'est un plat de poisson avec de la réglisse, de l'ail noir. On est dans aussi visuellement que dans le palais, dans des choses très sombres, très racines, vraiment. Et c'est né parce que je m'aurais jamais imaginé que maintenant, depuis plus de 2 mois, tous les 15 jours, on travaille, on a une call conference avec le directeur des recherches lunaires de la NASA, avec lequel on échange sur la Lune, toutes les études scientifiques que la NASA a menées jusqu'à aujourd'hui. Et on est même au point de voir si la NASA nous prête un morceau de Lune pour présenter à nos clients parce que l'Apollo 1, il a ramené 300 kilos de masse lunaire qui aujourd'hui est prête pour l'exposition dans certains musées. Et on est en train de voir si on peut avoir la chance pour un certain temps d'avoir un petit morceau de lune.
Est-ce que le fait d'avoir changé tout autant de choses dans votre rapport à la cuisine, Mauro Colagreco, a provoqué aussi un changement dans ce que vous souhaitez susciter chez le client? C'est-à-dire aujourd'hui, avec ces nouveaux plats issus du calendrier lunaire, qu'est-ce que vous cherchez à provoquer, à susciter chez le client? Je sais pas, une émotion, une surprise, un choc, à le bousculer, à le cajoler?
C'est avant tout des émotions, de le surprendre, mais aussi de le mener dans une réflexion. Dans notre place à tous dans le monde, de la place vraiment de la nature dans le monde, qu'on l'a volée et qu'on doit laisser la place pour qu'il revienne. Voilà, c'est cette réflexion d'approche à la nature, de sensibiliser les gens à une vraie question de société.
On est, et on revient au début de cet entretien, à Mauro Colagreco, avec vous au Grand Cœur, donc à Paris, parce que vous allez cuisiner deux dîners d'exception. Qu'est-ce que vous allez cuisiner ce soir? Je vois sous mes yeux un menu qui s'appelle chasseur-cueilleur. Alors là, on revient à la terre.
On revient à la terre.
Et à nos ancêtres.
Et voilà, et à nos ancêtres qui étaient chercheurs dans les bois, et c'est quelque chose que j'adore, me perdre dans les bois pour chercher ces petites herbes sauvages, pleines de saveurs qui sont des fois étonnantes. Et sur les menus qu'on va faire ici au Grand Cœur, ces deux jours, ben, on a cherché à intégrer ces herbes sauvages et travailler en complexité avec justement des producteurs de vins qu'on admire, qui travaillent aussi eux en biodynamique, et des chercheurs piqueurs, hein, cueilleurs. Donc on a fait ces menus où on a plein de plats, on a le pagre d'Île Dieu qu'on va les marier avec une herbe qui est très animale, c'est la lierre terrestre que j'adore, c'est une herbe des saisons aussi, on la trouve beaucoup au début d'automne où il y a le bois, il commence à être plus humide. Après, on a une tartelette à croquer. J'aime bien mener les clients à utiliser ses mains. Hein, et c'est une tartelette avec les premières trompettes de la mort et des cressons des fontaines, donc qu'on trouve aussi dans les bois cette saison-là. Et après, on a un plat qu'on a laissé de faire aux Mirassur, mais que ça nous a, il a vraiment marqué en période. C'est une betterave qu'on laisse dans nos champs pendant 2 ans. Donc, c'est une grosse betterave qui arrive à 3 kilos, qu'on va cuire comme un croûte de sel, comme une viande. Ça, c'est quelque chose, une technique que j'ai appris chez Alain Passard. Mais après, on va la couper très finement en tranches et on va la servir avec une crème caviar. Voilà, c'est très simple, mais c'est un plat qui m'a vraiment marqué et qui plaît beaucoup. Et qui est un peu sentimental parce que je l'ai laissé de faire au Mirassur et je vais le faire aujourd'hui à Paris. Et après, on a voilà un bar des lignes, du canard, colvert, le premier canard colvert. J'aime beaucoup la chasse, j'aime beaucoup les chiviers à plumes, donc je profite.
Merci beaucoup, Mauro Colagreco.
Merci, un grand plaisir.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute, en podcast sur franceculture.fr. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Baptiste Lénard, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. À dimanche prochain.